Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine Vivante Église. Au micro, pour intervenant, je reçois Thomas Bellel. Thomas Bellel est un auteur chrétien, un jeune auteur né en 1995, qui a un parcours marqué par une conversion missionnaire après avoir fréquenté des protestants évangéliques, diplômé en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études à Paris. Il poursuit des études de théologie et continue de participer à des missions d'évangélisation dans une paroisse catholique. Auteur de 4 ouvrages, un premier ouvrage Mission possible, un deuxième ouvrage intitulé Tous pour un, qui est un petit guide pour vivre l'unité des chrétiens, un troisième ouvrage Prêt, feu, aimé, pour se plonger dans une plus grande radicalité, et puis ce dernier ouvrage que nous découvrirons dans cette émission et dans cette deuxième partie de magazine. Ce dernier ouvrage s'intitule Présence d'esprit, un petit guide pour vivre la amitié avec le Saint-Esprit. Bonjour Thomas Bellel.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir, ce jeune auteur, né en 1995. Tout d'abord, revenons quelques minutes de présentation pour rencontrer un peu ce jeune auteur, puisque c'est un quatrième ouvrage que je tiens entre les mains. Tout d'abord, ce premier livre, paru aux éditions des Béatitudes, Mission possible, c'est un guide, je crois, pour oser évangéliser à temps et à contre-temps. Alors, Mission possible, ce livre se destine à quel genre de lecteur ?
À tous les êtres humains sur cette terre.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Tous les chrétiens, c'est ça. À partir du moment où je me suis senti poussé, moi, à la mission, je me suis dit que toute personne pouvait être missionnaire, sachant qu'à la base, je pense que je n'ai pas du tout les qualifications requises. Je suis à la base quelqu'un de plutôt timide et tout ça. Donc, parler à des gens. Parce que le guide est aussi un peu plus axé sur l'évangélisation de rue, même si après, de manière plus générale, l'idée c'est de donner des clés aussi pour pouvoir témoigner dans notre quotidien. Mais c'est vrai que moi j'ai eu une porte d'entrée dans l'évangélisation par la question de l'évangélisation de rue, alors que effectivement, ça, spontanément, ça aurait pas du tout été mon truc d'aller voir des gens que je connais pas dans la rue pour leur parler de Dieu. Et donc j'ai eu là-dessus un peu une sorte de déclic qui s'est fait. Alors ça s'est fait dans une église protestante évangélique, alors que, juste pour la petite anecdote, donc je viens d'une famille très catholique, mais il se trouve qu'au début, alors que j'étais en études supérieures, une de mes sœurs s'est fiancée avec un protestant évangélique, donc moi ça m'a amené à m'y intéresser, à me dire bon, dans quoi est-ce qu'elle s'embarque. Je voyais qu'elle faisait un cheminement de foi en dehors de l'église catholique, et donc j'ai eu une période de ma vie, je sais pas si on y reviendra, mais en tout cas, voilà, en côtoyant des évangéliques, et en fait j'ai eu une expérience très forte de Dieu. Je pense que ça devait être au moment d'un culte, donc un temps de prière, où en fait j'ai vécu ce qu'on peut appeler une expérience d'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire une prise de conscience très profonde de l'amour infini de Dieu pour moi, du fait que Jésus était mort pour moi aussi. C'était très très fort. C'est comme si je m'étais approprié l'idée que peut-être que si j'étais la seule personne sur Terre, Jésus-Christ serait quand même mort pour moi, de quelque chose de très profond, très intense, très fort, et en fait qui a un peu changé la manière dont je voyais les choses. Avant ça, j'étais déjà chrétien, je croyais en Dieu et tout ça, mais là il y a quelque chose qui s'est produit où je me suis dit je peux plus vivre ma vie comme avant. Et donc il y a eu, en fait, suite à ça, je pense que c'était assez rapidement finalement, un déclic aussi par rapport à la question de l'évangélisation. D'une certaine manière, quand je me suis rendu compte ce que ça signifiait vraiment être chrétien, être rempli de l'amour de Dieu, je me suis dit, mais il faut absolument que d'autres gens puissent être au courant, en fait. Beaucoup de gens autour de moi qui ne le savaient pas, et je me suis dit, voilà, ça s'est fait naturellement, en fait. Je me suis pas posé de questions, mais il fallait que ça sorte.
Vous avez donc évoqué ce milieu protestant. À quel moment, au fond, avez-vous vécu cette conversion vers ce retour vers l'Église catholique, Thomas Bellel ?
Alors, ça a été un peu progressif. C'est-à-dire qu'en fait, en vous faisant la version courte, du coup j'ai une période de gros questionnement.
Vous avez les deux versions, la longue et la courte, on choisit la courte.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc la version courte, c'est que ça s'est fait par la Vierge Marie, qui était un de mes questionnements, en fait, à la période où je côtoyais les protestants évangéliques. Voilà, c'était sur le statut de la Vierge Marie. J'avais beaucoup d'amis catholiques et même mes parents, etc., qui avaient une grande dévotion pour la Vierge Marie. Moi, à ce moment-là, où j'étais dans une église évangélique, j'essayais d'être un protestant cohérent et donc à bien rejeter la Vierge Marie. Donc, j'ai mis son intercession à l'épreuve. Je ne sais pas si c'est très bien de faire ça. Je ne sais pas si je le recommande.
Mais vous l'avez fait.
Mais en tout cas, il s'est trouvé que la Vierge Marie a répondu à ma prière et que pour moi, ça a été la porte d'entrée vers un retour à l'église catholique. Et donc ensuite, une redécouverte de chaque point que j'avais mis en doute au niveau de l'église, au niveau de sa doctrine, de sa théologie, etc. Donc j'ai eu une reconversion à l'église catholique qui était à la fois intellectuelle par la théologie, par la cohérence de la foi, etc. Et plus spirituelle qui est sur des choses, l'Eucharistie que j'ai redécouvert, la dévotion à la Vierge Marie, enfin beaucoup de trésors et de grâces de l'église catholique que j'ai redécouvert. Et donc, ce qui a fait qu'à la fois je suis très reconnaissant et j'ai beaucoup de joie en me remémorant mon expérience chez les évangéliques. Et aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, le fait de me rendre compte à quel point l'Esprit Saint pouvait agir à travers les autres confessions chrétiennes, donc ce qui est valable aussi pour les orthodoxes et tout ça. Et puis, tout en me sentant aussi profondément catholique et en disant très calmement que je considère que l'Église catholique a la plénitude des moyens du salut, ce qui ne veut pas dire que l'Esprit Saint ne passe pas par les autres confessions chrétiennes, au contraire.
Alors, de l'Esprit Saint, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec votre dernier livre qui s'intitule, et ça tombe bien, vous êtes ici sur notre radio qui porte ce nom de Présence, et votre livre s'intitule avec un fond qui correspond aussi au logo de Radio Présence, Présence d'Esprit. Voilà, et c'est un petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit. Écrit, vous avez beaucoup écrit, vous avez écrit aussi ce petit guide, et vous faites référence aussi à ce mouvement aussi évangélique où vous avez reçu beaucoup de grâce, le livre Tous pour un petit guide pour vivre l'unité des chrétiens. Pourquoi l'écriture de ce livre ?
Alors,
Thomas,
comme je disais,
après votre retour à la foi catholique.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y avait un petit peu deux choses. C'était à la fois un vrai encouragement pour tous les chrétiens de se dire, il y a un enjeu extrêmement fort, je pense, dans les temps dans lesquels on est, de communion et de relation entre les différentes confessions chrétiennes, de ne pas juste se regarder avec mépris, avec jugement, etc., mais de rechercher au maximum tout ce qu'on peut vivre ensemble, tout ce qu'on peut faire ensemble, de rechercher en fait vraiment la communion, la fraternité et de plus possible cette unité profonde. Donc c'était un mouvement plus d'encouragement pour des chrétiens, quelle que soit leur expérience de l'unité des chrétiens, proposer des pistes aussi concrètes pour pouvoir s'impliquer. Et en même temps aussi unité qui soit en vérité. Donc ça, c'était aussi un message que je voulais donner dans ce livre en disant...
C'est-à-dire unité dans la vérité,
c'est-à-dire,
soyez explicite.
C'est-à-dire éviter toute forme de relativisme. Voilà, c'est un excès qu'on peut avoir parfois quand on a un certain enthousiasme vis-à-vis de l'unité des chrétiens, ce qui est mon cas. En fait, le risque, ce serait de se dire, on est unis par Jésus et tout le reste n'a aucune importance, et de venir en relativiser ce que Jésus veut pour son Église, ce qu'il appelle, et puis qu'est-ce qu'on appelle fondamentalement être l'unité. Et donc dans ce livre, c'était à la fois un vrai encouragement à vivre des choses avec les autres confessions chrétiennes, tout en se disant, on peut être profondément catholique aussi, droit dans nos baskets, sans aucun relativisme, et puis en étant convaincu aussi, on a le droit d'être convaincu que l'Église catholique a la plénitude des moyens du salut, de souhaiter aussi même que nos frères protestants et orthodoxes rejoignent l'Église catholique, mais tout en étant profondément ouvert et heureux de découvrir aussi quels sont les trésors qui ne sont pas forcément des trésors propres aux protestants et aux orthodoxes, mais peut-être des choses sur lesquelles ils mettent l'accent d'une manière qui peut nous édifier en tant que catholiques.
Et vous pensez à quoi quand vous évoquez l'Église orthodoxe, Thomas ?
Alors, au niveau de l'orthodoxie, moi, j'ai été pas mal marqué une certaine tradition spirituelle autour de la prière du cœur, la prière continuelle. Mais voilà, on pourrait parler aussi de leur toute une vision aussi de l'Esprit Saint, aussi leur liturgie, qui est aussi très belle. Donc il y a des trésors dans différentes confessions chrétiennes qui sont des choses que, je pense, l'Esprit Saint a permis aussi pour nous catholiques, pour nous mettre peut-être un petit coup de pied dans les fesses en disant, nous, en tant que catholiques, dans notre vie, dans notre spiritualité, qu'a-t-on fait de cette dimension-là ? Donc moi, ça a été aussi une certaine approche de la Bible, de la parole de Dieu, qui bien sûr a toujours été présente dans l'Église catholique. Mais chez les évangéliques, j'ai découvert un rapport vraiment intime, profond, comme étant la parole de Dieu présente, actuelle, vivante pour moi aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est fort dans ce trésor de l'Église catholique, puisque ça a été un retour vers cette Église catholique, Thomas?
Alors, pour moi, l'Église catholique...
Le plus beau trésor ou les plus beaux trésors de cette Église catholique que vous avez, au fond, adopté, hein?
Le plus beau trésor, je pense que ce serait très, très difficile à dire parce qu'il y en a tellement, mais je dirais que c'est d'abord l'Eucharistie.
Donc les sacrements.
C'est les sacrements, oui. C'est les sacrements bien sûr. Et puis c'est l'idée de plénitude. C'est aussi une communion dans l'espace et le temps incroyable. C'est-à-dire c'est une vision de l'Église qui est profonde, qui est universelle, universelle dans l'espace, mais universelle dans le temps avec la communion des saints. Et puis vraiment une idée profonde que voilà, à travers les sacrements, que l'œuvre de Jésus est une œuvre historique qui s'est appliquée à un moment donné, mais qui est sans cesse rendue présente aujourd'hui et que le temps est toujours nouveau avec Dieu. Et à travers les sacrements, à travers l'Eucharistie notamment, on est vraiment présent à la mort, à la résurrection de Jésus. Ça, c'est quelque chose de très fort aussi.
Donc ces sacrements comme aussi ce sacrement de l'Eucharistie que vous nommez, le sacrement... de réconciliation.
Bien sûr, oui.
Ça, c'est...
Mais on pourrait parler des heures de tous les trésors catholiques.
Donc vous restez aujourd'hui dans cette église catholique?
Ah oui, je me sens profondément catholique.
Qu'est-ce qui vous fait rester aujourd'hui dans cette église catholique? Avec les temps que nous vivons, avec ses joies, ses peines, ses épreuves, ses scandales, qu'est-ce qui vous fait rester?
L'Église catholique, c'est, je ne sais plus si c'est Bossuet qui disait ça, mais c'est Jésus répandu et communiqué. Et donc j'ai cette conviction absolue que Jésus continue abondamment de répandre ses grâces par l'Église catholique, à travers l'Église catholique aujourd'hui, et c'est clair qu'il y a des abus, il y a tout ce que vous voulez, tout ça, et qu'il faut lutter avec la plus grande fermeté, mais ça n'ébranle pas ma foi une seule seconde par rapport à ce qu'est l'Église catholique, au contraire, parce que voilà, si on regarde les débuts de l'Église, dans les 12 apôtres que Jésus a choisis, bon bah il y avait Judas donc à la fois lutter contre tous les excès et lutter pour que l'Église soit toujours plus cette épouse immaculée qu'elle a vocation à être. Puis en même temps se dire que l'Église étant dans le temps et dans l'espace est composée de pécheurs, il y aura toujours des gens, alors nous-mêmes en partie, mais des gens peut-être un peu plus que d'autres aussi, qui s'allieront cette Église plus que d'autres, mais il n'empêche que c'est l'épouse immaculée de Jésus et que nous sommes appelés à donner notre vie pour elle.
Alors cette épouse immaculée, la Vierge Marie, c'est une mère des amis du Saint-Esprit. Alors on va en parler dans quelques minutes et dans la deuxième partie de cette émission. Je poursuis aussi avec la rencontre de ce jeune auteur que vous êtes, puisque vous êtes né en 1995 et que vous avez déjà écrit 4 livres. Le troisième était paru aux éditions Première Partie, Prêt, Feu et Aimé. Je crois que c'était pour plonger dans une plus grande radicalité. Quel était le cœur de ce livre?
C'est donc une invitation à la radicalité chrétienne, mais je précise quelle radicalité, c'est vraiment radicalité évangélique, radicalité de l'amour, vivre pleinement de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et le message du livre, en un mot, ça se résume par sa couverture, si jamais un jour vous y avez accès, mais c'est le message que je donne à l'introduction, c'est la vie chrétienne, c'est un peu comme une piscine, une immense piscine, la piscine de la grâce, la piscine de l'amour de Dieu. Et nous, chrétiens, parfois, on a tendance à tourner un peu autour de cette piscine, à y plonger un doigt, un orteil et tout ça, c'est-à-dire à vivre quelque chose de la foi chrétienne, mais avoir du mal à se lancer et à plonger pleinement dedans et à lâcher toutes nos réserves pour foncer dans cette piscine. Donc ça, c'est une invitation à vivre pleinement, radicalement, intensément cette plongée dans l'amour de Dieu, plongée de plus en plus profonde. Et puis l'autre élément aussi, l'avantage de la piscine de l'amour de Dieu, c'est quand on prend son élan et qu'on saute dans cette piscine, en fait, la piscine se met à éclabousser. Donc ça, c'est l'avantage missionnaire. Et c'est aussi une de mes convictions très très fortes qu'on retrouve, je pense, dans à peu près tous les livres. Plus on est proche du cœur de Dieu, plus on est proche de la présence de Dieu, plus on passe du temps dans la prière, dans l'amour de Dieu, plus en fait, ça en vient à éclabousser les personnes autour de nous et on devient missionnaire.
Et c'est là où ça devient contagieux, c'est ce qu'on peut entendre.
C'est
un peu l'image aussi quand vous décrivez aussi cette piscine, on y plonge, on n'y plonge pas. Ça rappelle aussi le baptême, l'immersion aussi au jour du baptême.
C'est ça. Oui. Et le terme même de baptême, baptiser, ça veut dire plonger, immerger. C'est pas juste on reçoit 3 gouttes d'eau sur le nez, mais par le baptême, on est immergé dans la grâce, on est immergé dans le Saint-Esprit.
Alors dans cette immersion du baptisé, cette immersion aussi de celui qui va devenir quelque peu avec le temps adulte dans la foi, qui deviendra, s'il répond aussi à l'appel du Seigneur, missionnaire dans la vigne du Seigneur. Vous l'êtes, Thomas Bevel, missionnaire. Vous vivez cette expérience profonde dans le quotidien de votre vie. Alors c'est quoi, au fond, pour répondre à cette vocation, les talents d'un missionnaire dans ce troisième millénaire. Quels sont, je dirais, les talents, les charismes dans les temps que nous traversons. J'aime bien rappeler aussi des temps d'épreuve, hein, des temps de guerre, certes, de famine, de troubles et de confusion. L'espérance du missionnaire chez vous. Une parole d'encouragement et puis peut-être aussi un témoignage. Rendez-nous témoignage.
Alors, est-ce que j'essaie d'être missionnaire ? Oui, après...
Essayez ou vous êtes missionnaire dans votre vie de tous les jours ?
Je le suis, en même temps, on est toujours des missionnaires absolument imparfaits, et je pourrais l'être tellement plus. Mais en tout cas, je pense qu'être missionnaire aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout être accroché à Jésus comme jamais, à chaque instant. Être vraiment plongé dans la piscine. À la fois, bien sûr, il faut de l'audace, de la créativité. Voilà, moi je me réjouis de voir que on utilise les moyens de communication, la radio et tout ça, et puis des personnes qui se lancent sur YouTube. Donc tout ça, c'est des choses qui sont belles et magnifiques, ouais. Même s'il y a aussi une évangélisation qui se fait vraiment par la rencontre interpersonnelle qui est telle que Jésus les vivait.
C'est la rencontre de rue. Vous avez répondu un peu à cet appel.
Voilà, l'évangélisation de rue, qui est une modalité de l'évangélisation, qui est très belle, et moi j'en ai vu beaucoup de fruits, qui est une manière d'évangéliser, mais il y en a d'autres au fond. Je pense qu'on est appelés tous à être missionnaires, c'est-à-dire à rayonner de la lumière de Jésus ressuscité dans notre quotidien. Et donc ça, je pense que il faut qu'on soit exposé, comme quand on bronze au soleil à la plage. Bon, ben nous, il faut qu'on bronze à la lumière de Jésus, qu'on se laisse transformer, qu'on se laisse façonner. Et puis qu'on ait conscience que notre responsabilité aussi de se dire, ben, on a reçu un véritable trésor, il est pour le bien de tous. Et donc c'est à nous aussi de nous dire, bah, sans forcément être missionnaire, ça ne veut pas dire nécessairement aller au Japon et évangéliser, alors ça peut être ça, hein. Mais c'est aussi de se dire, dans mon quotidien, les personnes autour de moi, c'est aussi des personnes qui me sont confiées, les personnes que je vois régulièrement, ma famille, mes amis, mes proches, mes collègues de boulot, des personnes que je vois plus occasionnellement, des passants, des boulangers, etc. Ces personnes, bah, le Saint-Esprit va me permettre, plus je vais être en relation avec lui, de saisir comment je vais pouvoir déployer cet amour de Dieu pour eux. Être missionnaire, c'est d'abord répandre l'amour de Dieu, l'amour de la Trinité autour de nous. Et donc ça passe, je pense, par une disponibilité. C'est pas d'abord je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis prêt pour être missionnaire, pour répandre ton amour autour de moi. C'est d'abord accepter soi-même au cœur de notre quotidien, mais d'être disponible à pouvoir aimer tel que Dieu le voudra, en parole, en acte et en prière.
Alors, vous êtes arrivé dans ces studios ici, dans la ville rose de Toulouse, ces studios de Radio Présence. Vous avez pris le train, vous arrivez de Paris. Vous aviez, et vous avez dans les mains, mais vous l'aviez autour du cou, un chapelet. Voilà, il faut oser, permettez-moi, porter un chapelet autour du cou. Ça se voit beaucoup à Lourdes, cité mariale, avec des milliers de pèlerins. Mais voilà, c'est une question. À quel moment vous vous êtes dit et vous avez pris cette décision d'oser porter ce chapelet très visible ?
Pour moi, il y a deux choses dans le chapelet. La première et la plus importante, c'est d'abord... le fait que j'aime beaucoup la Vierge Marie, et donc ça me permet de prier le chapelet aussi, c'est d'abord ça, c'est pas d'abord un outil, mais il se trouve que il devient un outil missionnaire par le fait même que je le porte autour du cou et que je le porte n'importe où, quel que soit le lieu. Je le portais dans mes études supérieures, dans un établissement laïque, républicain et tout ça, je le porte dans le métro, voilà, donc je le porte pas dans un état d'esprit de je sais pas comment dire, de provocation ou pour choquer ou pour mais c'est vrai que en le portant, j'espère que les personnes vont venir vers moi. Je le porte vraiment aussi comme outil missionnaire, en disant je veux que les personnes qui me croisent puissent, s'ils le veulent, se dire ils ont un chrétien sous la main, s'ils ont envie de lui parler, s'ils ont envie qu'il prie pour eux. Alors ça peut être pour des belles rencontres, des rencontres chouettes, mais je suis aussi disponible si jamais il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles pour l'Église. Je suis aussi un punching ball, et ça c'est bien que je le sois pour des personnes. Alors il se trouve que ça m'arrive peu, mais je sais que je suis prêt à ça si jamais des personnes ils ont vécu des choses difficiles avec l'église, ben j'ai aussi envie d'être là pour ces personnes là pour des personnes qui auraient été blessées, pour des personnes qui auraient envie d'en parler, de se demander pourquoi un jeune porte un chapelet. Voilà, toutes des choses pour lesquelles c'est à la fois aussi une certaine pression, parce que je me dis je dois me montrer digne de cette croix que je porte autour du cou, donc je pense que je suis jamais suffisamment digne. Et en même temps, j'ai vu autour de moi que ça a permis, ça permet des rencontres, ça permet...
Un exemple, parfois... et on vous retrouve après pour la suite de l'émission. En deux minutes, un petit témoignage.
Un petit témoignage du chapelet. Alors ça arrive beaucoup, ces derniers temps, ça arrivait pas mal pour des personnes, parfois SDF aussi, comme j'habite à Paris, j'en rencontre beaucoup. Des personnes qui, voyant mon chapelet, m'interpellent, me demandent... ça arrivait que je prie avec des personnes, encore récemment. Des personnes aussi, ça m'est arrivé. Du coup, j'ai dû acheter des chapelets en plus. J'essaie d'acheter des chapelets pas trop chers parce que sinon, je vais me retrouver ruiné. Parce qu'il y a des personnes parfois qui, voyant mon chapelet, me demandent si j'en ai d'autres pour eux. Donc, non, il y a des très belles rencontres comme ça qui parfois sont très très courtes et parfois sont plus prolongées.
Merci infiniment, Thomas Bellel, de ces quelques mots de présentation. C'est un jeune auteur chrétien. Je rappelle que vous êtes né en 1995. On va découvrir ce quatrième livre paru aux éditions des Béatitudes, Présence d'Esprit. C'est un petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit, juste après cette plage musicale. À tout de suite.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église avec pour intervenant Thomas Bellel. Thomas Bellel, vous êtes auteur, jeune auteur. Je rappelle que vous êtes diplômé en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études à Paris, que vous poursuivez des études de théologie et que vous continuez à participer à des missions d'évangélisation dans une paroisse catholique à Paris. Alors auteur, oui, de ce dernier livre, Présence d'Esprit, petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit. Pourquoi l'écriture de ce livre, Thomas Bellel ?
Alors, c'est à l'issue d'une découverte personnelle qui, en soi, n'est pas du tout personnelle, parce que l'Église le dit à travers la bouche de beaucoup de saints et tout ça, mais une prise de conscience à un moment donné que l'Esprit Saint est vraiment une personne, qu'il est une personne divine, et que donc on peut vivre en relation avec lui, c'est-à-dire pas seulement demander au Père et au Fils des grâces de l'Esprit-Saint, des choses venant de l'Esprit-Saint, des dons de l'Esprit-Saint, tout ça c'est très bien, c'est magnifique, mais il y a aussi la communion avec la personne de l'Esprit-Saint. C'est une phrase qu'on entend à la messe, hein, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit-Saint soit avec nous. Et donc on peut vivre notre vie en communion avec l'Esprit-Saint. La première chose, c'est de prendre conscience qu'on peut avoir une relation personnelle comme avec une personne, alors différemment parce que c'est une personne spirituelle et parce qu'il est Dieu, mais de dire le Saint-Esprit, il a des émotions, il a une volonté, il a une intelligence, et donc on peut vivre vraiment quelque chose de puissant en prenant conscience que énormément de choses dans notre vie chrétienne qui sont vivantes, parce que le Saint-Esprit est d'abord, je pense que c'est comme ça qu'on peut peut-être le voir, c'est il est Seigneur, il donne la vie, le Saint-Esprit c'est celui qui vient rendre toute notre vie chrétienne vivante. Mais moi j'ai fait cette expérience, ou plutôt je me suis rendu compte de différentes expériences, qu'à chaque fois c'était le Saint-Esprit qui en était à l'origine, c'est le Saint-Esprit qui vient rendre notre rapport à la Bible vivant, qui fait passer la Bible d'un livre qui nous paraît peut-être lointain et abstrait à la parole de Dieu vivante, il rend la liturgie, peut-être quelque chose qui peut paraître à certains moments un peu morne et ennuyeux, à d'un coup la présence surnaturelle de Dieu qui se donne à nous. Voilà, il y a toute une série de dimensions, même la vie morale chrétienne qui peut nous paraître difficile, culpabilisante, abstraite. Eh bien, avec le Saint-Esprit, il va nous faire comprendre que c'est avant tout aimer notre prochain et aimer Dieu, et que c'est un chemin de vie pour nous. Le Saint-Esprit est vraiment cette lumière pour notre intelligence, et c'est celui qui vient enflammer notre volonté pour que nous puissions vivre cette vie que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire vivre en communion avec la Trinité. Et vivre avec le Saint-Esprit, c'est comme une bande-annonce du ciel, c'est une bande-annonce de la vie éternelle. Donc moi, ce livre, c'est simplement, je me sens comme dans cette phrase que dit Jésus dans l'Évangile, « Si tu savais le don de Dieu, tu savais le don de Dieu », donc moi c'est ça que j'ai envie de dire à chaque chrétien. Et le don de Dieu, c'est aussi un des noms qu'on donne au Saint-Esprit. Donc si on savait, nous chrétiens, cette vie qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit, cette joie, cette paix, cette puissance et puis cet amour que le Saint-Esprit veut répandre en nous. Voilà, donc j'espère que modestement ce livre pourra y contribuer.
Alors oui, moi je vous invite, chers auditeurs de Vivante Église, à découvrir d'abord ce jeune auteur, Thomas Bellay, et découvrir ce livre que j'ai lu du début à la fin, qui est aussi, je dirais, un beau parcours pour rappeler cette personne de la Trinité. Alors je vais avec un peu d'humour, troisième personne de la Trinité, ou non, Thomas Bellay, vous en parlez dans cet ouvrage, c'est avec beaucoup d'humour. Hein.
Alors, troisième, dans ce qu'on appelle l'ordre des processions, c'est-à-dire d'abord le Père, puis le Fils et le Saint-Esprit, mais premier, en fait, nous, dans notre expérience de Dieu. C'est-à-dire que celui qui nous a fait découvrir Dieu, celui qui nous a fait expérimenter sa miséricorde, celui qui nous fait découvrir le sens des sacrements, celui qui rend la Bible vivante, la liturgie, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire l'expérience de Dieu, en premier lieu, nous vient par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui vient rendre notre relation au Père et au Fils vivante. Donc c'est dans ce sens-là où le Saint-Esprit n'enlève rien à notre relation avec le Père et le Fils, mais au contraire, il vient la permettre. C'est pour ça qu'on a tout à gagner à vivre en amitié avec le Saint-Esprit.
Alors vous citez, mais tout au début de cet ouvrage, Cyril de Jérusalem, donc vous donnez aussi, tout est sourcé, c'est intéressant. On est souvent en quête de celui qui est parfois nommé le grand inconnu, on ne parle jamais assez de l'Esprit-Saint, c'est Cyril de Jérusalem. C'est assez vrai, c'est assez, vous souhaitiez, je dirais, rendre hommage à l'Esprit-Saint qui est parfois encore, pour certains, ce grand inconnu.
C'est ça, oui, le remettre un petit peu, remettre l'église au milieu du village, comment dire, remettre le Saint-Esprit un peu au milieu. Alors encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire, de sous-entendre qu'on parlerait trop des autres personnes de la Trinité, parce qu'au contraire, à nouveau, le Saint-Esprit ne fait que les mettre en lumière, mais il y a beaucoup de choses de notre vie chrétienne sur lesquelles on ignore que c'est le Saint-Esprit qui en est à l'origine, et donc on se prive de beaucoup de choses, je pense, que ce soit dans la théologie, mais dans notre vie spirituelle, dans notre vie missionnaire, dans notre vie concrète, de se rendre compte à quel point c'est l'ami, le compagnon, le maître intérieur, c'est le consolateur, c'est la force et la puissance, tout ça, c'est ce que Jésus, la personne que Jésus a voulu nous laisser, hein. Et parfois on en oublie que Jésus nous a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vous puissiez vivre avec le Saint-Esprit. Donc Jésus lui-même a passé toute sa vie j'ai envie de dire en connexion avec le Saint-Esprit, et puis après la Pentecôte, il nous a vraiment confié au bon soin du Saint-Esprit pour que nous vivions en communion avec lui. Et donc souvent je trouve que le risque c'est qu'on puisse avoir une vie chrétienne peut-être qui manque de certaines choses, qui est peut-être un peu triste, qui manque de ferveur et tout ça. On regarde un peu le ciel en se disant bah peut-être que le paradis ce sera bien après, mais on en oublie qu'on peut vivre déjà aujourd'hui ce qu'on appelle des arts, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une bande-annonce du Saint-Esprit, enfin de la vie divine, du paradis, à travers cette présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. Hein. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la vie de Dieu, la communion de la Sainte Trinité que l'on peut vivre ici et maintenant à chaque instant.
Alors, vous le rappelez aussi tout au début de votre livre, et puis j'invite vraiment nos auditeurs, les chers auditeurs de Vivante Église, à découvrir, et c'est une onction de bonheur, c'est une onction, c'est une piqûre de rappel, voilà, ce Saint-Esprit. En vous lisant, vous nommez très souvent, et c'est des rappels, la Sainte Écriture, hein, que ce soit de l'Ancien Testament avec ses prophètes d'Ézéchiel à Jérémie au Nouveau Testament, et notamment les Actes des Apôtres. Les actes des apôtres, que l'on appelle les actes du Saint-Esprit. Et page 30, vous rappelez donc que ce Saint-Esprit, il a des intentions. Celui qui sonde les cœurs, c'est qu'il est le désir de l'Esprit, que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. L'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Mais je vous le demande, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et la charité de l'Esprit, le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, etc., etc. Nous revenons et vous rappelez incessamment du début à la fin que cette présence du Saint-Esprit, elle l'est nommée à temps et à contre-temps. Donc au fond, c'est relire, faire une immersion à nouveau dans les Saintes Écritures.
Voilà, là aussi c'est un retour aux sources, hein. C'est pas une nouveauté. Le Saint-Esprit est partout présent depuis les premières pages de la Bible, depuis qu'il plane sur les eaux à la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse où on nous dit l'Esprit et l'Épouse disent viens. L'Esprit est partout présent, il est partout présent dans l'histoire de l'Église, il est partout présent dans la vie des saints, dans la tradition, dans la vérité qui est laissée à l'Église, qui est transmise, il est présent dans les sacrements, dans la liturgie, dans la vie spirituelle, c'est le maître intérieur. Et il s'agit juste ici effectivement d'un rappel et puis de se dire, mais voilà, à travers tout ça, il y a où en est notre relation personnelle avec ce Saint-Esprit qui n'est pas juste une sorte d'énergie abstraite lointaine, mais qui est véritablement une personne divine qui nous aime, qui veut entrer en relation avec lui. Et cette relation à la fois elle est progressive, elle se passe dans le temps long, mais elle est aussi simple. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il est en nous, il attend qu'une chose, c'est qu'on lui ouvre, qu'on lui laisse de la place, qu'on vive avec lui, qu'on aille faire nos courses avec lui, qu'on aille au boulot avec lui, qu'on l'emmène avec nous, qu'on vive toutes choses avec lui. Et ça rend notre vie tout simplement plus belle, plus joyeuse, plus paisible.
Plus joyeuse et plus paisible. Alors, encore quelques références de ce livre. Vous donnez et vous sourcez tout, donc c'est très intéressant. C'est de l'abbé Monin dans l'esprit du curé d'Ars, et c'est un extrait aussi d'une des homélies du saint curé d'Ars, hein, dans ses catéchèses. C'est un tout petit extrait qu'on retrouve, hein. Il y a plein d'extraits donc de la Bible, et puis aussi de nombreux saints de l'Église catholique. Je me permets de lire ce petit extrait, et puis si vous souhaitez réagir juste après, Thomas, n'hésitez pas. Si l'on disait aux damnés « Pourquoi êtes-vous en enfer ?» ils répondraient « Pour avoir résisté au Saint-Esprit. » Et si l'on disait aux saints « Pourquoi êtes-vous au ciel ?» ils répondraient « Pour avoir écouté le Saint-Esprit. » Ce n'est pas moi, hein. Ce sont vos sources, et c'est du saint curé d'Ars.
Oui, le Saint-Esprit,
c'est un enseignement.
C'est le souffle divin en nous qui vient orienter toute notre vie vers la vie éternelle. Et donc, contrister l'Esprit Saint, ne pas le suivre et blasphémer contre l'Esprit Saint, qui est le pire péché, c'est finalement refuser la vérité sur Dieu, la vérité sur nous-mêmes. Et donc, c'est ce qui nous conduit en enfer. Et à l'inverse, vivre dans la présence de l'Esprit Saint, l'écouter, lui obéir, c'est ce qui vient nous refaçonner à l'image de Dieu, enfin... Nous sommes à l'image de Dieu, mais comme diraient les pères de l'Église, nous avons perdu la ressemblance. Et donc l'Esprit Saint va comme nous sanctifier, diviniser toute notre vie pour qu'on devienne comme des icônes de Jésus pour les personnes autour de nous. Et donc effectivement, plus on vit en relation avec cet Esprit Saint, qu'on essaie de l'écouter, qu'on essaie de l'intégrer dans notre vie concrète, pas seulement les grands choix de vie, mais tout notre quotidien le plus banal, eh bien, plus le Saint-Esprit va déployer en nous cette faculté d'aimer Dieu de façon désintéressée, d'aimer notre prochain vraiment, et en effectuant une œuvre aussi de libération par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport aux attachements. Et en cela, le Saint-Esprit nous rend libres. Il nous rend libres d'aimer, libres de notre vocation d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait découvrir et intérioriser à quel point ce que ça signifie en fait d'être fils et fille de Dieu, la dignité que ça représente. Et tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit vient produire en nous. Et puis non seulement il nous en donne la conviction, mais il vient nous permettre de le vivre concrètement dans notre vie de tous les jours.
Et vous terminez, et ça sera un peu la finalité de cette émission du jour dans ce Vivante Église avec votre livre. Et je vous invite, chers auditeurs, à vous plonger dans ces quelques lignes. Enfin, c'est un livre de près de 250 pages. Voilà, bien travaillé, bien écrit. Vous terminez sur la Vierge Marie, mère des amis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la Vierge Marie, au fond, et vous l'écrivez, c'est une grande histoire d'amour.
C'est
entre
ça.
Les deux.
Oui, oui. En ayant bien en tête, bien sûr, que la Vierge Marie est une créature et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais c'est vrai que quand on observe d'un peu plus près la place de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Marie, c'est absolument incroyable. Alors en particulier avec le moment de l'incarnation, de l'Annonciation, qui est le moment particulier, peut-être le plus fou de l'histoire de l'humanité, où le Verbe s'incarne en Marie. Mais au-delà de ça, en fait, c'est assez beau de voir, alors même que Marie est prise sous l'ombre de l'Esprit, qu'elle est comblée de grâce et donc comblée du Saint-Esprit, en fait, à l'instant même où l'ange lui dit ça, on a après l'Annonciation, on a le moment où Marie vient visiter sa cousine, et donc c'est comme si l'Esprit Saint en elle rendait Marie complètement missionnaire et venait répandre l'Esprit autour d'elle. Et donc je pense que Marie, c'est vraiment aussi une clé pour notre vie avec l'Esprit Saint. Elle-même a vécu une intimité incroyable avec l'Esprit, elle s'est laissée faire à chaque instant, en quelque sorte. Elle ne restreignait aucun mouvement de l'Esprit Saint en elle. Et donc, pour nous, finalement, nous sommes appelés à l'imitation de la Vierge Marie, à laisser l'Esprit Saint, à nous laisser faire entièrement, à vivre de la volonté de Dieu, à nous laisser complètement transfigurer par l'amour de l'Esprit Saint. Et donc, la Vierge Marie est un canal de l'œuvre de l'Esprit Saint très puissant.
Vous citez aussi parmi de nombreux saints, Saint Louis, Marie Grignon de Montfort, bien connu aussi avec ce livre du secret de Marie, sur la fin des temps, dit-il, et peut-être plus tôt que l'on ne le pense, Dieu suscitera de grands hommes remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Marie, par lesquels cette divine souveraine fera de grandes merveilles dans le monde pour détruire le péché et y établir le règne de Jésus-Christ. Je me permets de terminer et vous allez peut-être réagir. On parle actuellement, si on devait parler un peu d'actualité brûlante ou moins, non pas de fin de monde, mais on est un peu sur la fin des temps. Voilà, et ce qui explique un peu cette citation aussi de votre livre de Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est le temps presse, Thomas Bellel, prenons et invoquons, collaborant avec le Saint-Esprit et la Vierge Marie, qu'est-ce qu'on peut entendre? Et c'est ainsi que nous terminons ce Vivante Église aujourd'hui, donc restons des chrétiens debout et vivants, et avec la grâce et les grâces que le Saint-Esprit veut déployer, surtout baptisés, ou futurs baptisés.
Oui, oui. Alors à la fois on ne connaît pas le jour et l'heure de la fin des temps, et puis en même temps on a aussi des signes un petit peu qui nous sont donnés, et je pense effectivement, ça ne doit pas nous mettre la pression, mais peut-être de nous dire quand même que à chaque instant en fait on peut mourir, ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle puisque ça veut dire rejoindre Dieu, on peut mourir, Jésus peut revenir.
Si on fait les bons choix. Hein.
C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour de la conversion, c'est aujourd'hui le jour d'accueillir l'Esprit Saint, et je pense vraiment, pour le coup, j'y crois profondément à ce rôle de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie à la fin des temps. Je pense que c'est pas du tout anodin que dans les siècles et les décennies dans lesquelles nous sommes, les dogmes mariaux, les apparitions de la Vierge Marie, etc., d'un côté, de l'autre, la redécouverte particulière dans la théologie, mais aussi dans la vie spirituelle et missionnaire du rôle de l'Esprit Saint, en fait, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui dans la dévotion à la Vierge Marie, et puis dans l'adoration de l'Esprit Saint. Grignon de Montfort disait ça il y a quelques siècles, mais je pense qu'il y a une actualité particulière aujourd'hui.
Merci infiniment, Thomas Bellel. Donc, on peut vous découvrir à travers vos 4 ouvrages, et en particulier ce dernier, qui a aussi un rappel à notre radio, Radio Présence. C'est Présence d'Esprit, petit guide pour vivre l'amitié avec le Saint-Esprit, paru aux éditions des Béatitudes. Nous vous souhaitons une belle mission et en collaboration avec le Saint-Esprit. Nous l'avons compris.
Ben, merci à vous et puis soyez bénis et remplis du Saint-Esprit.
Merci, au revoir.